Chapitre 48. 6 novembre 2010. Il est 8 heures quand je pousse le portail de la maison de Louis Berthéol. Il habite au milieu de la rue Saint-Pierre, à environ 200 mètres de la cordonnerie. Un froid humide s'immisce dans tous les pores de ma peau. Le ciel est bas, comme figé dans la glace. Mais le jour a fini par se lever. Je connais cette maison par cœur. Rien n'a changé. Des jardinières, une pergola près d'un garage à vélo, un petit moulin en pierre que Louis a fabriqué pour sa fille et dont les ailes tournent encore. Une cabane de jardin repeinte chaque année. Tout est entretenu au cordeau. Quand j'étais enfant, la femme de Louis me faisait peur à cause de sa maigreur. Elle était malade et souvent alitée. Louis avait un saladier rempli de bonbons dans l'entrée et une fille plus âgée que moi qui me fascinait. Elle faisait des études supérieures, sentait bon, était grande, élégante, et surtout, elle avait un fiancé. Pour moi, réussir sa vie signifiait être promise à un prince charmant. Mon Dieu! Rue Saint-Pierre, la plupart des maisons sont identiques et souvent mitoyennes. Elles ont longtemps appartenu à l'usine qui les a revendues à des particuliers dans les années 90. J'ai toujours connu Louis ici. Je crois que ses parents y vivaient déjà lorsqu'il est né. Je frappe, il me crie d'entrer. Le sol du couloir est mouillé et sent le produit ménager à l'eucalyptus. Je vois qu'il vient de faire le ménage. Les chaises sont retournées et posées sur la table de la salle à manger plongée dans l'obscurité. Attablé à la cuisine, Louis boit un café. Devant lui, le journal de Saône-et-Loire est ouvert à la page des sports. C'est plus fort que moi, j'appuie sur l'interrupteur et le plafonnier diffuse une lumière jaune qui réchauffe la pièce. Sur les murs, une pendule et 2 photos de mariage. Le sien et celui de sa fille, 30 ans plus tard. Le prince charmant a pris un sacré coup. Je souris intérieurement. T'as vu la gueule du tien, Agnès. Et ça ne l'a pas empêché de se barrer en plus. Je ressouris intérieurement. Colette est remorte, et grâce à elle, je ressouris intérieurement. Sers-toi, dit Louis en me désignant la cafetière. Je déteste la pisse de chat. J'ai trop l'habitude des expressos. Louis, la maison que Colette habitait rue des Fredins, je crois que je voudrais te l'acheter.
Pourquoi faire?
Je sais pas.
Il y aura des travaux si tu veux moderniser.
Je n'ai pas l'intention de la moderniser. Je l'aime bien comme elle est, dans son jus.
Mais une fille comme toi pourrait s'acheter un château ici.
Je ne veux pas de château, je veux une maison.
Elle vaut des cacahuètes.
Bah, je te l'achèterai en cacahuètes.
Il lève les épaules, l'air de dire, fais comme ça te chante.
En parlant de maison, tu connais ceux qui vivent dans celle de la tombola de papa?
Antoine était. Avant, il était docteur. Il travaillait aux urgences à l'hôpital de Chalon. Maintenant, il répare des vieilles voitures, surtout comme celle de Liesse. Il y en a au moins 10 dans son jardin, des blanches, des bleues, des oranges. On dirait un champ de fleurs. Il a acheté un pré à un agriculteur pour les entreposer. C'est joli à regarder.
Tu veux dire des Méhari?
Oui.
C'est drôle. Ce sont mes voitures préférées. Papa aussi les adorait. Il serait content de savoir que la maison Tombola en abrite plein.
Tu les as mises où, les cendres?
Un peu partout. Surtout vers l'ailier gauche, dis-je, en ignorant où il se trouve sur un terrain à part à gauche, peut-être.
L'ailier gauche?
Aimé Chauvel?
Pourquoi tu me parles d'Aimé?
Et toi, pourquoi tu rougis, Louis?
Il lève à nouveau les épaules, l'air de dire n'importe quoi. Tu as prévu de la musique pour la cérémonie à Lyon?
Élude-t-il. J'y ai pas encore pensé. Sans doute l'enregistrement d'une sonate interprétée par papa. Il me regarde longuement. Il semble triste et fatigué. Il caresse le journal du bout des doigts. Je vois qu'il cherche ses mots, mais j'ai tout mon temps. Je me sers une tasse de pisse de chat.
Tu as écouté les cassettes? Finit-il par articuler.
Pas toutes, pas encore. Et toi, Louis, tu en as écouté quelques-unes? Il paraît choqué par ma question.
Non, je me serais jamais permis. Ces cassettes, c'était pour toi. Ça tournait à l'obsession à la fin.
À l'obsession?
Colette ne pensait qu'à ça. Quand je passais la voir, elle était toujours assise devant ce magnétophone à s'enregistrer.
Pourquoi tu ne m'as pas appelé?
Pourquoi tu m'as pas dit qu'elle était vivante ?
Tu vivais en Amérique. Et puis, après la mort de Blanche, Colette m'a fait jurer le silence sur la tête de ma fille. Elle disait que tant que tu ne savais rien, tu ne risquais rien. Et moi, ça m'énervait que ce type, ce Soutkovski, fasse la pluie et le beau temps.
J'ai rencontré la mère de Blanche il y a 3 jours. Elle réside dans une maison de retraite à Sallanches, sous une fausse identité.
Elle est vivante ?
Demande-t-il, stupéfait.
Oui. Comment tu l'as retrouvée ?
C'est une longue histoire, mais c'est parti d'une pièce d'identité planquée chez Colette, sous le meuble télé.
Quelle pièce d'identité ?
Celle de Blanche Soutkovski, née le 7 mars 1946 à Flumet. Je l'ai donnée à Marie, c'est ainsi qu'elle s'appelle, Marie Roman.
Marie ? Blanche ? Colette n'a jamais su que j'avais téléphoné à un détective. Elle m'aurait engueulé, traité d'inconscient.
Il décachait une enveloppe posée sur la table et me tend un article avec le cliché d'un homme dans un manteau gris, tirant un caddie de course derrière lui. Voûté, petit, les cheveux blancs. Comment ce petit vieux peut-il encore terroriser tout le monde ?
Ça, répond Louis. J'aimerais bien le savoir. Le parfait voisin. Discret, jamais de bruit, des courses le matin et on ne le revoyait pas de la journée. Jusqu'au jour où la pauvre femme qui a pris cette photo depuis sa fenêtre a été retrouvée morte. Elle s'appelait Mathilde Pinson. Le fait qu'il disparaisse juste après le meurtre a éveillé les soupçons. D'autant qu'il avait vidé sa maison, une location, de toutes ses affaires. Parti sans laisser d'adresse. D'après l'enquête, la victime était sa compagne.
Elle avait quel âge ?
Plus jeune que lui. 63, la pauvre.
Il a fait de la prison après avoir laissé pour morte la mère de Blanche. J'ai un copain flic à Paris qui fait des recherches sur lui en ce moment. Faut que je lui parle de Valence. Pourquoi Blanche avait si peur de lui ? Tu crois qu'il aurait fait du mal à sa fille ?
Elle m'en a jamais parlé. C'était sous-entendu, cette terreur.
Tu as gardé l'article du nouveau détective ?
Je l'ai dans la tête. Quand j'ai fini de réparer la maudite, c'est comme ça que j'appelais le lave-linge de Colette,
poursuit-il en esquissant un sourire,
je me suis arrangée pour aller aux toilettes avec le magazine qu'elles avaient planqué dans le tiroir de la table de la cuisine. Je savais qu'elles allaient le mettre vite fait à la poubelle après l'avoir cramé ou déchiré. Colette était redescendue à la cordonnerie et Blanche était dans sa chambre. C'était un miracle qu'il soit encore là, dans le tiroir. Je l'ai piqué et je suis allée m'enfermer comme un voleur. Si Colette m'avait pris la main dans le sac, elle aurait pu ne plus jamais m'adresser la parole. Je peux te jurer que mes mains tremblaient, mais fallait que je sache. Mets-toi à ma place. J'ai cherché et j'ai trouvé le titre que Colette avait lu à voix haute. Le suspect en fuite. Et le début de l'article, c'était l'horreur. Soutkovski s'en était pris à sa compagne qui voulait le quitter. Il y avait un portrait de lui, de ces photos qui sont faites par la police quand un suspect se fait choper. Celle-là devait dater un peu. Le type s'était échappé après l'avoir frappé. Il était recherché par la police. L'article disait qu'il avait déjà eu des problèmes avec la justice pour des faits de violence aggravée et qu'il avait été incarcéré. Tu es en train de me dire qu'après sa sortie de prison, il a recommencé ? Oui.
Et il a fini par tuer ?
Oui. L'article racontait que la victime, originaire de Marseille, s'en était miraculeusement sortie, mais qu'elle mettrait des années à revivre normalement tellement il l'avait amochée. Il ferme les yeux.
Tu te souviens d'autre chose, Louis ?
Non. J'ai remis le magazine à sa place et je suis parti sans demander mon reste. Il avait échappé à la police, il était recherché. Alors à partir de ce jour-là, j'ai tout le temps eu peur pour elle. Je faisais des rondes devant la cordonnerie, à n'importe quelle heure. On était en 2004, juste avant l'été. J'avais envie d'aller à la gendarmerie pour dire que Colette et son amie étaient sans doute menacées. Mais si Blanche était cachée chez Colette, c'est qu'elle ne faisait pas confiance à la police.
Elle était comment, Blanche ?
Gentille, discrète. Le portrait craché de ta tante, mais en même temps complètement différente. On sentait qu'elle n'avait pas eu la même vie, la même histoire. Et Colette s'est toujours fondue dans le paysage. Blanche, elle, même si elle l'avait voulu, ça n'aurait pas été possible.
Il jette un coup d'œil à sa photo de mariage, comme s'il demandait pardon à sa moitié.
Quand j'ai vu Blanche pour la première fois, elle devait avoir dans les 60 ans. Je n'ai pas bougé le petit doigt, mais à toi je peux bien l'avouer. J'aurais rêvé de la voir dans mon lit. J'aurais rêvé de l'embrasser. On dit plus des choses comme ça de nos jours. Mais si j'avais pu coucher avec elle, j'aurais été le plus heureux des hommes.
La conversation prend une tournure plus qu'inattendue. Louis, boulanger à la retraite, chez qui on allait acheter des pains au chocolat à 4 heures du matin en sortant du Tacots, qui dans sa chemise à carreaux sous sa photo de mariage me fait une confession à laquelle je ne m'attendais pas du tout.
« Tu es tombé amoureux d'elle ?»
Il me dévisage, stupéfait,
puis me répond du tac au tac. « Impossible de pas tomber amoureux d'elle, impossible. Elle était trop belle, trop femme, trop tout. Le monde entier serait tombé amoureux d'elle, même une pierre ou un pauvre caillou de rivière. »
« Mais tu penses que c'était réciproque ?»«
Bien sûr que non. Elle, à Guignon, on sentait qu'elle cherchait la paix. Pas une aventure avec un vieux schnock comme moi. »
Colette et Blanche étaient très amies.
C'était beau à regarder.
J'adorerais avoir une photo d'elle l'une à côté de l'autre.
Ah, ça, je crois pas que ça existe.
Mais elle sortait, faisait des choses à l'extérieur?
Pas à ma connaissance.
Oh, c'est complètement fou. Tu crois qu'il est arrivé qu'elle se soit fait passer l'une pour l'autre?
Je crois pas. Je sais pas.
Depuis quand tu étais au courant pour Blanche? Je veux dire, que Colette la cachait.
Depuis la Coupe de la Ligue.
Tu parles de la victoire de Guignon au Stade de France?
Ouais.
Tu parles de l'an 2000?
Ouais.
Quand Colette a disparu plusieurs jours?
Ouais.
Elle était avec Blanche?
Ouais. C'est à ce moment-là qu'elle est revenue avec elle.
Blanche a vécu 7 ans à Guignon?
Ouais. 7 ans.